L'illusion de la productivité marginale. Revenons à la question de l'explosion des inégalités salariales observées depuis les années 1970-1980 aux États-Unis et à un degré moindre au Royaume-Uni et au Canada. Nous avons vu que la théorie de la productivité marginale et de la course-poursuite entre technologie et éducation n'était guère convaincante. L'envol des très hautes rémunérations a été extrêmement concentré au sein du centile supérieur, voire du millime supérieur, et a concerné uniquement certains pays et non d'autres. Le Japon comme l'Europe continentale ont pour l'instant été beaucoup moins touchés que les États-Unis, alors même que les transformations technologiques auraient dû concerner de façon beaucoup plus continue tout le haut de la distribution des qualifications, et ce, dans l'ensemble des pays de niveaux de développement similaires. Le fait que l'inégalité des revenus atteigne dans les États-Unis des années 2000-2010 un niveau plus élevé que celui observé dans les pays pauvres et émergents aux différentes époques, par exemple plus élevé qu'en Inde ou en Afrique du Sud dans les années 1920-1930, 1960-1970 ou 2000-2010, conduit également à douter d'une explication fondée uniquement sur l'inégalité objective des productivités. Est-on bien sûr que l'inégalité fondamentale des qualifications et des productivités individuelles soit plus forte aux États-Unis en ce début du XXIe siècle que dans l'Inde à moitié analphabète d'il y a quelques dizaines d'années, ou même d'aujourd'hui, ou dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ou post-apartheid? Si tel était le cas, ce serait peut-être un peu inquiétant pour les institutions éducatives américaines qui doivent certainement être améliorées et devenir plus accessibles, mais qui ne méritent sans doute pas cet excès d'indignité. L'explication qui me semble la plus convaincante pour rendre compte de l'envol des très hautes rémunérations américaines est la suivante. Tout d'abord, s'agissant des fonctions de cadres dirigeants au sein de grandes entreprises, dont nous avons vu qu'elles constituaient la grande majorité des salaires les plus élevés, l'idée même d'un fondement objectif en termes de productivité individuelle pour expliquer les rémunérations me semble un peu naïve. Pour les fonctions duplicables, par exemple un ouvrier ou un serveur de plus, on peut approximativement estimer la productivité marginale apportée par ce salarié, avec toutefois des marges d'erreur non négligeables, comme nous l'avons déjà noté plus haut. Mais, s'agissant de fonctions uniques ou quasi uniques, ces marges d'erreur deviennent inévitablement beaucoup plus considérables. À dire vrai, dès lors que l'on introduit l'hypothèse d'information imparfaite, éminemment justifiée dans ce contexte, dans les modèles économiques standards, c'est la notion même de productivité marginale individuelle qui devient mal définie et qui n'est pas loin de se transformer en une pure construction idéologique permettant de justifier un statut plus élevé. Concrètement, imaginons une grande société internationale employant 100 000 personnes à travers le monde et réalisant un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros, soit 100 000 euros par salarié. Supposons que les achats de biens et services représente la moitié de ce chiffre d'affaires. C'est une proportion typique pour l'économie dans son ensemble. Si bien que la valeur ajoutée de cette société, ce dont elle dispose pour rémunérer le travail et le capital qu'elle emploie et utilise directement, est de 5 milliards d'euros, soit 50 000 euros par salarié. Pour fixer le salaire du directeur financier de la société, ou de ses adjoints, ou du directeur du marketing et de son équipe, etc., il faudrait en principe estimer sa productivité marginale, c'est-à-dire sa contribution aux 5 milliards d'euros de valeur ajoutée, est-elle de 100 000 euros, 500 000 euros ou 5 millions d'euros par an? Il est évidemment impossible de répondre précisément et objectivement à cette question. On pourrait certes tenter une expérimentation en essayant plusieurs directeurs financiers, chacun pendant quelques années, et tâcher de déterminer au sein d'un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros quel a été l'impact du dit directeur. On voit bien que l'estimation obtenue serait inévitablement extrêmement approximative, avec une marge d'erreur beaucoup plus importante que la rémunération maximale envisageable pour ce poste, y compris dans un environnement économique totalement stable. Sans compter que, dans un environnement caractérisé par une redéfinition quasi permanente des contours des entreprises et des fonctions exactes au sein de chaque société, une telle évaluation expérimentale est évidemment sans espoir. Face à cette difficulté informationnelle et cognitive, comment sont déterminées en pratique de telles rémunérations? Elles sont généralement fixées par les supérieurs hiérarchiques, et les rémunérations supérieures sont fixées par les supérieurs eux-mêmes ou bien par des comités de rémunération comportant diverses personnes ayant généralement elles-mêmes des revenus comparables, en particulier des cadres dirigeants d'autres grandes sociétés. Les assemblées générales d'actionnaires jouent parfois un rôle complémentaire, mais cela ne concerne généralement qu'un petit nombre de postes de direction et non l'ensemble des cadres supérieurs et dirigeants. En tout état de cause, compte tenu de l'impossibilité d'estimer précisément la contribution de chacun à la production de l'entreprise considérée, il est inévitable que les décisions issues de tels processus soient en grande partie arbitraires et dépendent des rapports de force et des pouvoirs de négociation des uns et des autres. Il n'y a rien de désobligeant à supposer que les personnes se retrouvant en situation de fixer leur propre salaire ont naturellement tendance à avoir la main un peu lourde, ou tout du moins à se montrer plus optimistes que la moyenne quant à l'évaluation de leur productivité marginale. Tout cela est bien humain, surtout dans une situation où l'information est objectivement très imparfaite. Sans aller jusqu'à parler de la main qui se serre dans la caisse, forcé de constater que cette image est sans doute plus adaptée que celle de la main invisible, métaphore du marché selon Adam Smith. En pratique, la main invisible n'existe pas, pas plus que la concurrence pure et parfaite, et le marché s'incarne toujours dans des institutions spécifiques comme des supérieurs hiérarchiques ou des comités de rémunération. Cela n'implique pas que les supérieurs et les comités peuvent fixer n'importe quel salaire et choisissent toujours et partout le plus haut niveau possible. Les institutions et règles caractérisant la gouvernance des entreprises dans un pays donné sont toujours imparfaites et balbutiantes, mais il existe tout de même un certain nombre de contre-pouvoirs. Ces institutions sont fortement influencées par les normes sociales en vigueur dans la société considérée, en particulier chez les cadres dirigeants et les actionnaires, ou leurs représentants s'agissant d'actionnaires institutionnels comme des sociétés financières ou des fonds de pension, ainsi que par l'acceptabilité sociale de tel ou tel niveau de rémunération par les salariés moins bien payés de l'entreprise, et la société dans son ensemble. Ces normes sociales dépendent notamment des systèmes de croyances au sujet de la contribution des uns et des autres à la production des entreprises et à la croissance du pays. Compte tenu des très grandes incertitudes à ce sujet, il n'est guère étonnant que ces perceptions varient suivant les époques et les pays et dépendent de chaque histoire nationale particulière. Le point important est que, compte tenu de ce que sont ces normes dans un pays donné, il est malaisé pour une entreprise particulière d'aller à leur encontre. Sans une théorie de cette nature, il me semble très difficile d'expliquer les très fortes différences observées entre pays concernant le niveau des plus hautes rémunérations, en particulier entre les États-Unis et à un degré moindre les autres pays anglo-saxons d'une part, et l'Europe continentale et le Japon d'autre part. Autrement dit, les inégalités salariales ont fortement progressé aux États-Unis et au Royaume-Uni, tout simplement parce que les sociétés américaines et britanniques sont devenues beaucoup plus tolérantes face aux rémunérations extrêmes à partir des années 1970-1980. Une évolution similaire des normes sociales a également eu lieu dans les sociétés européennes et japonaises, mais elle a commencé plus tard, dans les années 1980-1990, voire 1990-2000, et elle a été à ce jour beaucoup moins forte. Actuellement, au début des années 2010, les rémunérations de plusieurs millions d'euros continuent de choquer bien davantage en Suède, en Allemagne, en France, au Japon ou en Italie qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là. Rappelons que les États-Unis étaient dans les années 1950-1960 nettement plus égalitaires que la France, en particulier pour ce qui concerne les hiérarchies salariales. Mais il en est ainsi depuis les années 1970-1980 et tout indique que cela a joué un rôle central dans l'évolution des inégalités salariales dans les différents pays. Le décrochage des supercadres, une puissance forte de divergence. Cette approche en termes de normes et d'acceptabilité sociale semble a priori assez plausible, mais elle ne fait que repousser la difficulté un peu plus loin. Il faut ensuite expliquer d'où viennent ces normes sociales et comment elles évoluent, ce qui de toute évidence relève au moins autant de la sociologie, de la psychologie et de l'étude des croyances et perceptions et de l'histoire culturelle et politique que de l'économie stricto sensu. La question des inégalités relève des sciences sociales au sens large et non d'une seule de ces disciplines. En l'occurrence, Nous avons déjà remarqué que la révolution conservatrice anglo-saxonne des années 1970-1980, dont l'un des aspects est cette plus grande tolérance vis-à-vis des salaires très élevés des supercadres, avait sans doute été en partie causée par le sentiment de rattrapage, voire de dépassement, qui saisit les États-Unis et le Royaume-Uni à cette époque, même si les Trente Glorieuses européennes et japonaises étaient en réalité la conséquence presque mécanique des chocs des années 1914-1945. Mais il est bien évident que d'autres facteurs ont sans doute joué un rôle important. Soyons précis. Il ne s'agit pas de prétendre ici que les inégalités salariales dans leur ensemble sont entièrement déterminées par les normes sociales en matière d'équité des rémunérations. Ainsi que nous l'avons déjà noté, la théorie de productivité marginale et de la course-poursuite entre éducation et technologie permet d'expliquer de façon plausible l'évolution à long terme de la répartition des salaires, tout du moins jusqu'à un certain niveau de salaire et jusqu'à un certain degré de précision. La logique de la technologie et des qualifications met des bornes à l'intérieur desquelles la plupart des salaires doivent se fixer. Mais pour les fonctions non duplicables, et au fur et à mesure que les fonctions deviennent de moins en moins duplicables, notamment au sein des hiérarchies managériales des grandes sociétés, les marges d'erreur sur les productivités individuelles deviennent considérables. Le pouvoir explicatif de la technologie et des qualifications devient alors de plus en plus faible, et celui des normes sociales de plus en plus fort. Cela ne concerne de façon vraiment déterminante qu'une petite minorité de salariés, sans doute à peine quelques pourcents, voire moins de 1%, suivant les pays et les époques. Mais le fait essentiel, qui n'avait rien d'évident a priori, est que les variations dans le temps et entre pays de la part salariale reçue par le centile supérieur de la hiérarchie des salaires peuvent prendre une importance considérable, comme le démontrent les évolutions contrastées observées au sein des pays riches depuis les années 1970-1980. Ce décrochage inédit des salaires des supercadres doit sans doute être mis en relation avec la taille des grandes entreprises et la diversité des fonctions en leur sein. Au-delà de ce problème objectivement complexe de gouvernance des grandes organisations, il est possible que ce décrochage s'explique également par une forme d'extrémisme méritocratique, c'est-à-dire par un besoin des sociétés modernes, et en particulier de la société américaine, de désigner elles-mêmes des gagnants et de leur offrir des rémunérations d'autant plus extravagantes qu'ils semblent avoir été choisis en fonction de leurs mérites propres et non suivant les logiques inégalitaires du passé. Nous y reviendrons. En tout état de cause, il est clair qu'il s'agit potentiellement d'un puissant mécanisme poussant à la divergence de la répartition des richesses. Si les personnes les mieux payées fixent, au moins en partie, leur propre salaire, cela peut conduire à des inégalités de plus en plus fortes. Il est très difficile de dire a priori jusqu'où peut mener un tel processus. Reprenons le cas décrit plus haut du directeur financier d'une grande société réalisant 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il semble improbable que l'on décide un jour que la productivité marginale du dit directeur soit de 1 milliard, ou même de 100 millions, ne serait-ce que parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour payer toute l'équipe dirigeante. En revanche, certains considèrent que des rémunérations individuelles de 1 million, 10 millions ou même parfois 50 millions peuvent parfaitement se justifier. L'incertitude sur les productivités individuelles est telle qu'il n'existe aucun garde-fou évident. On peut tout à fait imaginer que la part du centile supérieur dans la masse salariale totale atteigne 15-20% aux États-Unis ou bien 25-30% ou même davantage. Outre la comparaison des évolutions nationales entre pays riches depuis les années 1970-1980, les données démontrant de la façon la plus convaincante la faillite de la gouvernance d'entreprise et le fait que la fixation des plus hautes rémunérations n'a que peu à voir avec une logique rationnelle de productivité sont les suivantes. Lorsque l'on rassemble des bases de données au niveau d'entreprises individuelles, cela est possible pour les sociétés cotées dans l'ensemble des pays riches, il est bien difficile d'expliquer les variations observées des rémunérations des dirigeants en fonction de la performance des entreprises considérées. Plus précisément, on peut décomposer pour un certain nombre d'indicateurs de performance, la progression des ventes de l'entreprise, le niveau de ses profits, etc., les variations dues à des causes extérieures à l'entreprise, par exemple l'état général de la conjoncture, les chocs sur le prix mondial des matières premières, les variations des taux de change, ou bien la performance moyenne du secteur considéré, et le reste des variations. Seules les variations du second type peuvent potentiellement être affectées, au moins en partie, par les dirigeants de l'entreprise. Si les rémunérations suivaient la logique de la productivité marginale, on devrait s'attendre à ce qu'elles ne varient pas ou peu en fonction de la première composante et seulement, ou principalement, en fonction de la seconde. Or, le fait est que l'on observe exactement le contraire. C'est quand les ventes ou les profits progressent pour des raisons extérieures que les rémunérations des dirigeants augmentent le plus fortement. Cela ressort particulièrement clairement si l'on examine le cas des sociétés américaines. C'est ce que Bertrand et Mullenhattan appellent la rémunération de la chance, « pay for luck ». Nous reprendrons et généraliserons cette approche dans la quatrième partie. Nous verrons que cette tendance à rémunérer la chance varie fortement dans le temps et suivant les pays, notamment en fonction de l'évolution de la fiscalité et plus particulièrement du taux marginal supérieur du revenu qui semble jouer un rôle de garde-fou fiscal quand il est élevé ou de pouce au crime quand il est faible, tout du moins jusqu'à un certain point. Cette évolution fiscale est évidemment elle-même liée aux transformations des normes sociales concernant les inégalités, mais une fois lancée, elle suit sa propre logique. Concrètement, la très forte baisse du taux marginal supérieur dans les pays anglo-saxons depuis les années 1970-1980, alors même qu'ils avaient été les inventeurs de la fiscalité quasi-confiscatoire sur les revenus jugés indécents au cours des décennies précédentes, semble avoir totalement transformé les modes de fixation des rémunérations des cadres dirigeants, ces derniers ayant maintenant de beaucoup plus fortes incitations que par le passé à tout faire pour obtenir des augmentations importantes. Nous analyserons également dans quelle mesure ce mécanisme amplificateur porte en germe une force de divergence de nature plus proprement politique. La baisse du taux supérieur conduit à une explosion des hautes rémunérations qui elle-même accroît l'influence politique, à travers notamment le financement des partis, groupes de pression et instituts de réflexion, du groupe social qui a intérêt au maintien de ce taux bas ou à son abaissement ultérieur.